Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Protests against Israel's war in Gaza are growing at universities across the US. These are the scenes at Columbia University, where students are camping out despite dozens of arrests on Monday.
Ça fait les gros titres de la télévision Al Jazeera en anglais. Les manifestations pro-palestiniennes dans les universités américaines, et notamment à Columbia, où la police est intervenue il y a une semaine. Cela n'a pas empêché des étudiants de camper en solidarité avec Gaza. Columbia, Yale, mais aussi Harvard, des universités américaines en pleine effervescence, en pleine remise en question aussi. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos, un programme disponible sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer et Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
We're learning some breaking news as a rabbi associated with Columbia University is urging students, Jewish students, to leave campus ahead of Passover as concerns over violence increases.
Fin avril, un rabbin associé à Columbia conseille aux étudiants juifs de rester éloignés de l'université de New York en raison des risques pour leur sécurité face, je cite, à l'antisémitisme extrême et à l'anarchie. Il ne nous appartient pas en tant que juifs d'assurer notre propre sécurité sur le campus. Personne ne devrait avoir à endurer un tel niveau de haine, et encore moins à l'école, écrit-il alors. Les événements tragiques à Gaza et en Israël depuis les attentats du 7 octobre provoquent des tensions dans plusieurs universités, certaines prestigieuses comme Yale, Harvard ou comme ici, à Columbia. Bonjour Solveig Godeluc.
Bonjour.
Vous êtes correspondante des Échos à New York, vous vous êtes rendue à Columbia et vous avez pu assister aux manifestations pro-palestiniennes sur ce campus. Columbia, c'est la grande université de New York et on entend derrière nous le son de cette manifestation que vous avez captée. Intifada Révolution, scandent des manifestants. Drôle d'ambiance, Solveig.
C'était un joyeux fatras, donc des tentes partout, vous savez, les petites tentes 3 secondes, des écriteaux hindous, gays, trans, lesbiennes, juifs, tout ça pour la Palestine, des étudiants assis en tailleur, avec certains avec leur ordinateur sur les genoux, parce qu'il y a quand même les examens dans une dizaine de jours, donc ils essayaient de travailler, puis d'autres qui bavardaient ou qui confectionnaient de nouveaux écriteaux. Et puis régulièrement, à intervalles réguliers, des sessions de mobilisation avec des animateurs qui passent au micro et puis qui s'égosillent, qui crient « Intifada Revolution, Disclose, Divest », c'est-à-dire « Faites la transparence et sortez des entreprises qui ont des intérêts israéliens ». Donc voilà, c'était un mélange d'ambiance assez bon enfant et aussi avec ces moments d'animation un peu durs, des choses un peu plus menaçantes avec des slogans qui sont scandés par tout le monde, le bruit du tambour, etc. Voilà, c'était un mélange. Alors, je précise que ce qui était assez étonnant, c'est qu'on m'a barré le passage au départ. J'ai pas pu rentrer dans le campement lui-même avec des étudiants qui ont dit « Ah non, c'est pas possible, faut assister à la conférence de presse dehors, etc. » Et puis, à ce moment-là, une étudiante juive que j'ai rencontrée me dit « Mais attendez, c'est hors de question. Moi, je paye 90 000 $ par an pour ma scolarité ici. Donc, je rentre où je veux sur la pelouse. Vous êtes mes parents. » Elle a dit ça à moi et puis à un autre journaliste. Et donc, je viens avec vous sur le lieu du campement et on est rentrés tous ensemble. Et une fois à l'intérieur, les gens étaient très accueillants, en fait. C'était pas du tout hostile, contrairement à ce qu'aurait pu laisser entrevoir le barrage à l'entrée. Il y avait une organisation du campement avec une cantine gratuite, des gens qui cuisinaient pour tout le monde avec l'aide des dons des uns et des autres. Et puis aussi des gens qui distribuaient des vêtements, des piles par terre. Et on m'a expliqué que comme certaines personnes donc passaient la nuit sur place et elles avaient besoin le lendemain de se changer, donc elles tapaient dans la pile de vêtements. Voilà.
Il y avait une ambiance très années 70, j'ai envie de dire, auquel vous avez assisté, avec aussi ce ton parfois violent, notamment dans les slogans. Je parlais justement en préambule du message d'un rabbin associé à l'université. Les Juifs sont-ils en sécurité sur ce campus?
Alors, jusqu'à présent, les manifestations sont non violentes. D'où cette ambiance, par moments, assez bon enfant, même assez presque sympathique, si on ne regarde pas le détail de certains écriteaux. Mais ensuite, il y a une stigmatisation du sionisme qui peut rapidement déraper vers l'antisémitisme. Et ça fait peur. Surtout quand il y a deux camps face à face. C'est-à-dire qu'il y a le campement avec les tentes et puis il y a des Juifs qui sont opposés à la manifestation, qui sont juste autour, voire dedans, comme je viens de raconter. Certains sont venus filmer dans les premières nuits et il y a eu une vidéo qui a été virale. On entend un animateur de la manifestation dire « Il y a des sionistes parmi nous !» et « Formons une chaîne humaine pour les repousser !» Et là, on voit tous ces gens qui se donnent la main et qui avancent serrés. Et c'est vrai que c'est vraiment inquiétant, cette foule qui répète les slogans en avançant comme ça, ça fait peur. Donc même si les manifestations ne sont pas violentes, même s'il y a aussi des Juifs qui sont à l'intérieur du campement, des Juifs pour la Palestine, c'est pas étonnant que de nombreux Juifs ne veuillent plus retourner sur le campus. Parce que bon, toutes ces images, tout ce qu'on raconte, toute cette stigmatisation, ça résonne quand même un peu dans l'inconscient collectif. Alors j'ai parlé à une enseignante qui est membre de la Task Force de Columbia pour la lutte contre l'antisémitisme, une task force qui a été créée après le massacre du 7 octobre en Israël par le Hamas. Et elle m'a dit, maintenant les gens commencent à avoir peur. C'est seulement maintenant en fait. Les étudiants juifs sur le campus commencent à avoir peur. Et elle m'a raconté aussi que ce qui l'ennuyait beaucoup, c'est que ça allait laisser des traces parce que certains enseignants ont pris la défense des étudiants juifs qui se sentaient mal, mais d'autres ont au contraire encouragé les manifestants à poursuivre leur mouvement.
Alors en attendant l'heure de l'interview, moi je me passais en boucle du Green Day, notamment American Idiot ou The American Dream is Killing Me. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond aux États-Unis. On sait l'Amérique très divisée, on en parle justement dans ces chansons de ce groupe punk. Mais ce qui se passe dans les universités, c'est quand même assez inquiétant. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Solveig?
L'étincelle, en l'occurrence, ça a été l'audition parlementaire de Nema Shafik, la présidente de l'Université de Columbia. Les associations pro-palestiniennes et tout le courant indigéniste ou nouvelle gauche des étudiants sur le campus ne voulaient pas qu'elle y aille. Parce que selon eux, c'était un piège politique pro-israélien. Elle y est quand même allée. Et elle a voulu montrer sa fermeté aux députés. Donc, elle a voulu montrer sa fermeté, ça veut dire qu'elle a lancé des enquêtes administratives, elle a banni certains enseignants qui avaient des thèses pro-Hamas. Et même, elle a fait appel à la police, ça c'était au lendemain du début de l'occupation, qui a correspondu avec le jour de son audition parlementaire. Et donc, elle a fait appel au NYPD pour déloger les étudiants campeurs. Et ils ont sorti les menottes, hein. Enfin, c'était pas pour rire. Il y a eu plus de 100 étudiants qui se sont retrouvés délogés par la police. Enfin bon, c'était un échec. Elle a sans doute été un petit peu rapide sur sa décision puisque le lendemain, il y avait deux fois plus de tentes. Et en plus, le mouvement a fait tache d'huile. C'est-à-dire que les campeurs se sont installés à New York University, The New School, qui est aussi à New York, à Yale. Et puis, il y a eu aussi plus récemment des incidents à Harvard, à Berkeley, en Californie. Enfin bon, ça fait vraiment tache d'huile. Donc, effectivement, elle est tombée dans le piège. Mais elle n'est pas la première. D'autres présidentes avant elle sont tombées dans le piège du Congrès. Elles ont été clouées au pilori en direct. Donc c'était les présidentes des universités de Harvard, du MIT et de Pennsylvania University qui ont été auditionnées en décembre. Et on leur a reproché de n'avoir rien fait pour empêcher les manifestations sur leur campus. Elles n'ont pas réussi à répondre comme il faut. Et deux d'entre elles ont dû démissionner.
On ne bougera pas tant qu'on n'aura pas gagné, scandent des étudiants du campement de solidarité. C'était peu avant l'intervention des forces de l'ordre. Certains réclament aujourd'hui l'intervention de la garde nationale, un climat de tension qui inquiète jusqu'à la Maison-Blanche.
C'est vrai qu'il inquiète, mais pour l'instant, pas tant que ça encore. Ça peut déraper très très vite. Mais bon, Biden, pour l'instant, il a répondu en disant qu'il condamnait l'antisémitisme. Mais il condamne aussi les gens qui ne veulent pas comprendre ce qui se passe en Palestine. Donc il est quand même assez mesuré. Il veut pas trop rentrer dans le feu de l'action pour l'instant. Alors en même temps, il faut comprendre que depuis octobre, à chacun de ses déplacements de campagne électorale, il y a des manifestations pro-palestiniennes. Les électeurs de gauche lui reprochent d'avoir mis trop de temps avant d'exiger d'Israël un cessez-le-feu. D'ailleurs, l'allié israélien, pas très coopératif, le lui a toujours pas promis. Donc, ça a pas trop marché, sa politique. Il est en difficulté au Moyen-Orient. Et puis, le camp Trump jette de l'huile sur le feu en permanence. On a même un sénateur républicain qui a parlé de pogrom naissant à Columbia University, ce qui est quand même tout à fait exagéré. Le speaker Mike Johnson s'est rendu mercredi sur le campus pour rencontrer le rabbin, les étudiants juifs, et puis dire qu'il fallait cesser ces manifestations. Il a dit que la présidente de Columbia devait démissionner et qu'il faudrait faire appel à la garde nationale. Bon, on voit pas trop pourquoi appeler la garde nationale dans la mesure où il y a déjà la police partout autour du campus et même des hélicoptères qui survolent en permanence. Et pas de violence, donc voilà, là c'est vraiment de la politique. Bon, ceci dit, alors tout ça c'est ennuyeux pour Joe Biden, mais pour l'instant le conflit israélo-palestinien, il arrive très très loin dans les priorités des électeurs, bien après l'inflation, l'immigration ou l'avortement. Voilà, donc c'est pas encore en top of the list.
WBZ has confirmed Claudine Gay is resigning as president of Harvard University.
Et à Harvard, l'université la plus riche du pays, la présidente de l'institution, Claudine Gay, a démissionné en début d'année. Pour quelle raison ?
Comme je disais, elles sont deux à avoir démissionné hein, suite à l'audition parlementaire de décembre qui était un piège tendu par les députés républicains. Parce que ces députés républicains, leur truc, ils font la chasse aux woke. Pour eux, les universités de l'Ivy League, c'est-à-dire l'élite des universités comme Harvard, comme Columbia, donc c'est tout ce qu'ils détestent. C'est des bastions de la nouvelle gauche, de la gauche indigéniste, politiquement correcte, ultra progressiste. Et dans ces universités, la pensée conservatrice est extrêmement minoritaire. Les gens n'osent pas s'exprimer quand ils ne sont pas libéraux et progressistes. Donc les populistes de droite, ils veulent leur revanche. Et pour eux, ces universités, c'est tout un symbole et c'est un bouc émissaire. C'est pour ça qu'ils veulent remettre en question à la fois le leadership, donc ils courent après ces présidentes d'universités qu'ils veulent faire tomber, et puis ils veulent aussi porter atteinte à leur porte-monnaie en supprimant les exemptions fiscales dont bénéficie leur fondation.
Claudine Gay était pourtant une personnalité marquante au sein de l'université, elle était aussi un symbole fort.
Ah ça c'est sûr, à la fois femme, noire, diplômée de sciences politiques et d'études afro-américaines, c'était un vrai symbole. Bon, le problème, c'est que le comité de recrutement de Harvard a examiné ses compétences administratives, mais apparemment n'a pas prêté tant que ça attention à ses compétences académiques, d'après le journal Harvard Crimson, réalisé par les étudiants sur le campus. Et donc, elle a duré 6 mois à son poste. C'est le mandat le plus court dans l'histoire des présidents de Harvard.
Harvard, c'est l'université la plus riche des États-Unis, l'une des plus prestigieuses. Comment les nombreux donateurs réagissent-ils à ce climat délétère ?
C'est sûr qu'ils réagissent mal. Il y a pas mal de donateurs juifs qui sont très mécontents et qui ont décidé de mettre fin à leurs donations. Alors, c'est vrai que la proportion d'étudiants juifs à Harvard a beaucoup diminué en quelques décennies, mais il y a encore beaucoup de mécènes qui sont juifs. Donc ça peut être assez important. Certains d'entre eux ont créé une association d'alumni et ils ont appelé à boycotter les donations à Harvard. J'ai rencontré l'un de ces donateurs juifs qui avait notamment fait une donation post-mortem et puis qui faisait des donations chaque année. Et il a tout transféré au centre Hillel, qui est un centre d'accueil des étudiants juifs sur le campus. Il y en a sur plusieurs campus américains. Alors, c'est pas forcément problématique à court terme, ce tarissement des donations. Ce qui risque d'être un vrai problème, c'est à plus long terme, avec la campagne de levée de fonds pluriannuelle. La dernière, elle remonte à 2018 et Harvard avait levé quasiment 10 milliards de dollars. peut-être que la prochaine campagne va être très difficile. Parce que ce qu'on voit, en fait, maintenant sur les campus, c'est que les juifs historiquement progressistes, qui ont été aux côtés des Noirs, par exemple, pendant le mouvement des droits civiques, commencent à trouver que ce climat universitaire devient un peu saumâtre et ils sont tentés de changer de bord.
Fight fiercely, Harvard! Fight, fight, fight! Impress them with our prowess, do!
Fight fiercely, Harvard, se battre avec acharnement, chanson satirique de Tom Lehrer, qui date de 1945 en réponse à la chanson de combat 10,000 Men of Harvard. C'est un ancien élève qui agaça d'ailleurs l'institution avec cette chanson. Solveig, pourquoi est-ce qu'on parle d'ailleurs de fabrique de l'élite américaine à Harvard?
Tout simplement parce qu'ils ont fabriqué cette élite. On compte 8 présidents parmi les anciens élèves de Harvard. De John Adams au tout début des États-Unis à Barack Obama. Il y a aussi des Nobel en pagaille, des prix Pulitzer, des financiers, les seigneurs de Wall Street, des gens comme Jamie Dimon ou Bill Ackman qui ont pris la parole justement quand les problèmes ont commencé à éclater à Harvard. On a des entrepreneurs célèbres, et notamment Bill Gates et Mark Zuckerberg. J'ai interviewé d'ailleurs leur prof d'informatique, Harry Lewis, sur le campus.
L'université n'est pas un sanctuaire, elle est au cœur de la société. Les étudiants ne sont pas seulement des apprenants, d'ailleurs on les incite souvent à penser et à réfléchir. Ils sont aussi d'ailleurs sensibles aux enjeux de société, au-delà d'ailleurs de ce qui se passe à Gaza. Vous parliez notamment des questions de wokisme dont on parle beaucoup aux États-Unis. Il y a d'ailleurs un incident qui a révélé déjà une forme de malaise il y a quelques années dans l'université et qui a abouti à la démission l'an dernier d'une prof de biologie. Que s'était-il passé?
Alors ça s'est passé en 2021 et c'est pas le seul incident. Il y a eu d'autres incidents de ce type-là, mais celui-là, il est quand même assez parlant puisque c'est une professeure de biologie, Carol Owen, qui a expliqué qu'il existait deux sexes biologiquement distincts déterminés, je cite, par les gamètes que nous produisons. Et cette phrase scientifique a fait scandale parce que des étudiants ont jugé qu'elle était transphobique et nocive. Et donc, du coup, il y a eu un mouvement de boycott qui s'est mis en place. Les étudiants ont cessé de venir à ses cours. Elle n'a pas réussi à recruter un assistant. Bref, ça devenait impossible de travailler. Et comme elle n'a pas été soutenue par l'administration face à ce mouvement de foule, on peut dire, elle a quitté son poste en 2023. Donc, ce qu'on a vu à cette occasion, c'est que l'administration n'était pas toujours très courageuse. Et notamment après Black Lives Matter, depuis 2020, les universités semblent avoir rivalisé dans le politiquement correct. Elles ont toutes agrandi leur département de diversité, équité et inclusion, DEI, c'est comme ça qu'on les appelle. Il y a une sorte d'autocensure, de peur de la confrontation aussi, qui a pris des dimensions très importantes.
On peut plus rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule, on peut plus rien dire.
Vous en avez parlé d'ailleurs avec ce professeur d'Harvard dont vous parliez, Harry Lewis, donc qui a été le prof de Zuckerberg. Quel regard justement il porte sur ces débats qui agitent l'établissement?
Alors j'ai parlé à deux profs en fait. Donc il y a eu Harry Lewis pour l'informatique et Eric Maskin qui est économiste et qui est intéressant aussi parce que ça a été le prof de notre Jean Tirole national. Alors ils ont un point commun, tous les deux ils participent au Conseil sur la liberté académique qui a été créé au sein de Harvard, justement à cause de la prise de conscience des excès du politiquement correct. Eric Maskin m'a parlé, lui, de la liberté académique qui était attaquée. C'est lui qui m'a parlé de cette histoire de Carol Owen. Et plus en général, de toutes les restrictions de ce qu'on peut dire. Par exemple, on s'interdit de dire le mot « femme ». Il vaut mieux dire « personne s'identifiant comme femme ». On s'interdit de dire « femme enceinte », on doit dire « personne enceinte ». On fait, bref, de plus en plus de contorsions qui semblent complètement folle. Voilà. Harry Lewis, lui, ce qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il pensait que la direction devrait adopter la neutralité institutionnelle, comme l'Université de Chicago. C'est une tradition à Chicago depuis toujours. Au lieu de prendre parti à chaque fois qu'il y a un grand débat national et une grande thématique sociale qui monte, chacun s'occupe de ses affaires. L'université s'occupe des affaires académiques et en dehors de l'université, on fait ce qu'on veut. Comme ça, on ne subit pas de reproches quand on ne prend pas la défense de la Palestine au moment où la Palestine est attaquée, par exemple.
Comment les étudiants que vous avez rencontrés réagissent-ils aussi à ces attaques contre l'université ?
Alors, j'ai parlé à un étudiant conservateur et fier de l'être. J'étais contente de le trouver parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Et lui, de son côté, était satisfait de voir que les choses bougeaient un peu depuis le départ de Claudine Gay, parce qu'il en a assez, comme il m'a dit, de l'anticapitalisme primaire sur le campus. Et puis, le nouveau numéro 2 de l'université, qui donc a été nommé au début de l'année, c'est un conservateur, donc c'est aussi une innovation notable dans un bastion progressiste. Alors, bien sûr, chez les autres étudiants, il y a un réflexe de défense de l'université. Ils disent par exemple que le DEI, la diversité, équité et inclusion, a du bon. Parce que ça permet de redresser des torts dans des institutions qui ont historiquement refoulé tous ceux qui ne faisaient pas partie des privilégiés. Il faut rappeler qu'à Harvard, au début, c'était que des WASP, hein, que des White Anglo-Saxon Protestants. Et puis, au fil du temps, ils ont fini par ouvrir la porte aux Juifs qui étaient auparavant refusés. Et puis, ensuite, aux Noirs, à toutes les minorités. Maintenant, il y a beaucoup plus de diversité raciale. Mais on manque encore de diversité sociale. C'est encore une élite financière et culturelle, malgré les aides qui sont données. Bien sûr, il y a des bourses hein, pour des gens qui viennent de familles défavorisées. Bon, n'empêche tout de même qu'aujourd'hui, quand on prend le classement de la fondation non-partisane FIRE, qui est spécialisée dans la liberté d'expression dans les universités américaines, Harvard est la lanterne rouge au 248e rang sur 248, avec pour mention niveau épouvantable. Des programmations, autocensure, enfin voilà, tout ça, ça fait un très mauvais score pour Harvard.
Les étudiants hésitent à s'exprimer en classe, sur leur copie, au réfectoire. Les tactiques visant à faire taire un intervenant sont plus acceptées qu'ailleurs. Les invités conservateurs sont tolérés, mais il y a un fort biais en faveur de personnalités libérales controversées. C'est ce que regrette le directeur de FIRE. L'image d'Harvard en sort abîmée et cette croisade dans certains milieux contre Harvard a eu une conséquence sur la question de la discrimination positive. Et l'attaque est venue de très haut, Solveig ?
Oui, alors je dirais pas que c'est une conséquence, parce qu'en fait, la discrimination positive, c'est un débat parallèle et déjà assez ancien. L'affirmative action, c'est ça, la discrimination positive, elle a été instituée au moment du combat pour les droits civiques dans les années 60, pour permettre aux Noirs notamment d'entrer à l'université ou d'obtenir les mêmes postes que les Blancs. Mais aujourd'hui, l'eau a coulé sous les ponts et puis certains jugent que la discrimination positive est allée trop loin. Et ils veulent des institutions colorblind, comme ils disent, aveugles à la couleur. Et l'été dernier, la Cour suprême a mis fin à la discrimination positive à l'admission à Harvard et puis dans les autres universités hein, par la même occasion. Et du coup, faut tout revoir.
Ça aura des conséquences, justement, sur la procédure d'admission à venir ?
Il n'y a pas trop le choix, puisque la Cour suprême, c'est elle qui décide. Hein. Donc, Harvard a dit qu'elle se plierait aux nouvelles règles. Donc, on ne peut plus admettre un étudiant en raison de sa couleur de peau. Mais ça n'empêche pas de regarder de quel quartier il vient, quels sont les revenus de sa famille et d'autres facteurs qui restent très discriminants et puis qui finalement peuvent favoriser certaines minorités. Alors ensuite, ça c'est la partie affirmative action. Sur le volet liberté d'expression et liberté académique, c'est difficile de dire ce qui va se passer maintenant parce que les universités, elles sont prises au dépourvu. C'est tout un système hein, qui s'effondre. Il faut penser contre soi-même pour changer les choses. C'est des choses qui nous semblent parfois évidentes en Europe. Par exemple, la doctrine de Chicago, hein, ne pas prendre parti dans les luttes sociales. Tout ça, c'est pas vraiment dans leur culture. Tout est très politisé. Et la conséquence de cette politisation, c'est qu'on ne peut pas débattre. Parce que si on débat, ça va faire mal à quelqu'un, forcément. Donc on se retrouve dans des systèmes où on a beaucoup de communication, mais très peu de dialogue. Et c'est ça le problème. Les Américains, je le pense, ont vraiment besoin de se parler plus. Et on pourrait presque dire que le problème des universités aujourd'hui, ça pourrait être le début d'une bonne psychothérapie de groupe pour l'Amérique.
Merci Solveig Godeluc, correspondant des Échos à New York. Son reportage sur Harvard est à retrouver sur leséchos.fr. Le lien est dans le descriptif de ce podcast. Merci à Willigan à la réalisation et à Michel Varnet, chargé de production et d'édition de La Story.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.